Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques.
Bonjour à tous, c'est Yann Ajmo qui vous parle. Vous êtes à nouveau sur le Francophone. Je suis en compagnie d'Ariane Larrault. Bonjour Ariane.
Salut tout le monde.
Ça va bien?
Oui, ça va.
Et aujourd'hui, on a deux choses intéressantes à discuter. Je pense qu'on se doit, à la suite du dernier podcast qu'on a fait, de discuter un petit peu de l'étude du Lancet sur l'hydroxychloroquine. Mais surtout, je pense qu'on n'a pas le choix de parler de la dexamétasone chez nos patients en COVID.
Oui, la fameuse étude Recovery.
Exact. Alors, Ariane, avant de commencer sur la DEX, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu l'hydroxychloroquine, comme je viens de le dire, sur l'étude, en tout cas sur la rétractation du Lancet. Alors, je t'écoute là-dessus, Ariane.
Ouais, gros revirement de situation. On avait parlé de l'étude là, dans le Lancet au dernier balado avec l'hydroxychloroquine et la chloroquine. Finalement, le papier a été rétracté. Je pense que c'était tout à fait légitime de le faire, là. Dans le fond, il y a beaucoup de scientifiques qui ont énoncé des doutes par rapport à la qualité des données de cette étude-là. Donc, ils ont remarqué en fait que plusieurs chiffres qui ne tenaient pas la route. Donc, d'abord, ils ont trouvé que la vitesse à laquelle ils ont eu autant de données, c'était peu possible. Ce qui était étrange aussi, c'est que le nombre de décès en Australie qui était rapporté dans l'étude dépassait le vrai nombre de décès qui avait été déclaré dans leurs rapports gouvernementaux officiels. Donc, c'était un peu louche. Puis, il y avait aussi beaucoup, beaucoup de données là, qui provenaient de l'Amérique du Nord. Puis pourtant, les doses qu'ils ont rapportées utilisées d'hydroxychloroquine dépassaient les doses recommandées par la FDA. Donc, ça aussi, ça tenait pas vraiment la route. Puis, en tout cas, fait que finalement, ils ont envoyé, plusieurs scientifiques se sont rassemblés, puis ils ont écrit une lettre qu'ils ont fait parvenir au Lancet pour demander d'analyser les données brutes par un comité là, indépendant. En fait, c'est la corporation qui s'appelle Sugisper qui avait fourni ces données-là. Puis ça vient, en fait, c'est une société américaine qui est privée, puis qui recense des données de patients de nombreux hôpitaux. Puis eux ont refusé de fournir l'information. Donc, à travers tout ça, le Lancet ont décidé de rétracter leur papier. Puis même aussi que Sugisper avait fourni des données aussi pour une autre étude dans le New England, puis eux aussi ont rétracté leur papier, là. Donc vraiment, si...
Un peu louche, hein? Ouais, un peu louche de ne pas vouloir donner tes chiffres là, mm-hmm. à ça. En tout cas, moi, je le vois comme, une tape sur les doigts à tous et chacun de faire attention. Naturellement, nous, on est allé avec notre dernier balado en discutant de ce qu'on avait comme information, mais dans le contexte du COVID, comme tout le monde veut publier, puis il y a une course à la publication,
exact.
C'est extrêmement dangereux. On va vous inviter à consulter par vous-même toutes les lettres à ce sujet-là là, qu'on va mettre dans les notes de la balado. Par contre, je pense que c'est important de vous dire que notre position par rapport à l'utilisation de l'hydroxychloroquine ne change pas vraiment. En tout cas, moi, ça l'a pas changer ma pratique. Je vais toujours attendre qu'il va y avoir une vraie étude randomisée contrôlée solide là-dessus avant de commencer ou de recommencer plutôt, je devrais dire, à en faire usage.
Ouais, je pense qu'on peut conclure sur ce sujet-là en disant qu'on est tanné d'entendre parler d'hydroxychloroquine puis qu'on veut juste passer à d'autres choses. Donc, on va parler de la DEX.
Excellent, la dexamétasone. Alors, Recovery Study, une étude qui vient de sortir en date, en fait, c'est le rapport préliminaire qui est sorti en date du 23 juin. Je tiens à dire encore que c'est préliminaire, ça n'a pas été revisé par les pairs. On va vous donner l'opinion que nous, on a à la lecture de ce rapport préliminaire-là. Mais globalement, là, il y a quelque chose de positif là-dedans. Je ne sais pas si tu es d'accord, Ariane. Ouais. Ça semble vraiment être très, très, très intéressant. Donc, il faut comprendre que Recovery, ça vient d'un groupe d'investigateurs de Oxford et qui étudie plusieurs traitements potentiel là, contre la COVID en même temps, dont la dexamétasone, aussi l'azithromycine, le lopinavir, ritonavir, les plasmas convalescents, ça a l'air assez positif également, puis le tolicizumab. Bon, les données qu'on va vous parler aujourd'hui proviennent du rapport préliminaire, comme je dis, sur le bras là, de l'étude de la DEX. On en avait parlé un petit peu dans notre balado qui faisait un résumé de notre expérience clinique de la première vague. Nous, on a utilisé les corticostéroïdes en COVID. On le sait que c'était controversé. On sait qu'il y a des effets délétères. surtout en pleine réplication virale. Puis surtout, on avait vu aussi avec les données observationnelles, avec le MERS et le SRAS dans le passé, que ça pouvait être un petit peu dangereux ou même à risque. Là, ça reste controversé aux soins intensifs, de toute façon, les corticostéroïdes depuis toujours, là, c'est controversé, tout le monde le sait. Pour ceux qui pratiquent depuis plus de 15 ans, je pense que vous l'avez vu là, en ARDS, en sepsis. Par contre, l'expérience clinique qu'on a eue, nous, aux soins intensifs ici, et même à l'étage, par nos pneumologues qui nous expliquaient un peu qu'il allait avec le solumédrol, ça semble avoir eu un effet bénéfique. Bon, naturellement, c'est pas une étude, là, c'est notre expérience empirique, mais on dirait que la cortico avait quelque chose de positif et de bénéfique chez certains de nos patients. Alors, juste pour mettre la table, Ariane, là, avant de commencer sur l'étude d'examéthasone sur Recovery, est-ce que tu peux me parler un petit peu de certaines études qu'il y a eues en COVID, entre autres, avant d'entrer dans le vif du sujet?
C'est sûr, on en avait parlé un peu déjà dans le balado sur l'expérience clinique, mais grosso modo, on a trois petits papiers sur le sujet qui ont tous des signaux positifs là, pour l'usage des corticos en COVID, mais tous avec des devis, là, je dirais, plutôt faibles, moyens. Donc, la première étude, c'était une étude qui a été effectuée dans la région de Wuhan, une étude rétrospective de 46 sujets. Chez qui on avait donné la méthylprednisolone, donc 1 à 2 mg par kilo par jour. Puis on voyait en fait une réduction au niveau de la une réduction de la température, donc une meilleure résolution de la fièvre, une réduction de la nécessité en oxygénothérapie et une amélioration plus rapide là, radiologique des pneumonies à COVID. On a un deuxième papier rétrospectif qui vient encore de la région de Wuhan, avec cette fois-ci 201 patients qui avaient la COVID et vraiment une franche pneumonie. Et dans le fond, eux, on voyait qu'ils développaient moins d'ARDS, donc encore une fois, en faveur des corticos. Puis finalement, il y a eu un espèce de papier, le pré-post-protocole au Michigan, qui incluait une utilisation précoce de corticos. Puis encore là, on voyait un signal positif là, pour les corticos.
Ouais. Je pense que c'est par rapport à ces études-là qu'on s'est donné un petit peu le droit de nous en donner, puis je pense que beaucoup de monde sur la planète également, toutes ces références-là vont être dans les notes de la balado. Bon, maintenant, le Recovery Trial, bon, c'est pour Randomized Evaluation of COVID-19 Therapy. C'est un rapport préliminaire, comme j'ai dit tout à l'heure, publié le 23 juin, qui n'a pas été révisé par les pairs, je le répète, il n'a pas été révisé par les pairs, puis en espérant qu'on n'aura pas de mauvaise surprise cette fois-ci. Alors, on va décortiquer un petit peu l'étude, là. J'ai vraiment trouvé ça intéressant, l'étude pragmatique dans son devis. Alors, peux-tu m'expliquer un petit peu c'est quoi, Ariane?
Oui, donc c'est ça, c'est important de comprendre. C'est une étude randomisée, à devis ouvert, multicentrique, mais c'est une étude qui est considérée pragmatique. Donc, quand on dit une étude pragmatique, c'est à l'opposition d'une étude avec exploratrice. Donc, une étude pragmatique, dans le fond, on veut aller récolter le plus de données possible en moins de temps possible. Puis, en fait, comment qu'on va faire ça? C'est qu'on va aller étudier dans la vie réelle. Donc, on va aller, dans le fond, on va mettre très peu de critères d'inclusion et d'exclusion. On va mettre très peu de barèmes là, par rapport, par exemple, à l'observance ou tu sais, on veut pas nécessairement des conditions parfaites là, pour notre étude. On veut les conditions de la vie réelle. Donc, ça fait en sorte que c'est plus facile d'inclure nos patients, d'atteindre notre échantillon, puis en moins de temps, dans le fond. Puis le groupe de comparaison, c'est souvent le traitement usuel. Donc, on ne va pas nécessairement utiliser un placebo, ce qui vient aussi freiner un peu la vitesse d'élaboration d'une étude. Et c'est ça, on va toujours faire des analyses en intention de traiter. Ce que ça permet de faire, c'est d'avoir une meilleure validité externe. Donc, c'est plus facile de généraliser les résultats parce que dans la vraie vie, ben les conditions qu'on a, c'est celles de la vraie vie. Par contre, on peut avoir un peu plus de biais de confusion. Donc, les investigateurs sont pas à l'aveugle. Donc, ça se peut là, qu'on ait un petit peu plus de biais dans l'analyse des résultats. Mais je pense que dans le contexte d'une pandémie, c'était vraiment la meilleure idée là, d'aller vers ce type de devis-là. Puis, il faut juste prendre en compte cette réalité-là quand on analyse les résultats.
Ouais. Je pense que de toute façon, comme tu as dit, dans le contexte de la pandémie, il faut faire des études. Il faut se servir du moment qu'on a des patients et des centaines de milliers de patients dans le monde pour pouvoir faire ça. Donc, ça reste un meilleur compromis acceptable. Je dois juste rajouter aussi que, je ne sais pas si tu l'as dit, là, mais 176 centres, 167 hôpitaux en Angleterre, ce qui est à peu près 15% de tous les hôpitaux anglais. Donc, c'est quand même une énorme étude. Mm-hmm. Alors, au niveau des patients, Ariane, ça ressemble à quoi? comme l'étude pragmatique a peu de critères d'inclusion-exclusion. Alors, tantôt, c'est ce que tu nous as expliqué. C'était quoi les types de patients qu'on avait?
Donc, en fait, c'est des patients qui étaient hospitalisés, donc ça, c'est à retenir, avec soit un COVID confirmé ou une suspicion de COVID. Donc, c'était pas obligé d'être tout à fait confirmé. Puis, les patients étaient exclus seulement si le clinicien déterminait qu'il y avait un risque pour le patient de recevoir la dexamétasone. Ça, par contre, ils n'ont pas vraiment détaillé à savoir qu'est-ce qui aurait pu les motiver à exclure le patient. Puis bon, à mon avis, il n'y a pas tant de contre-indications absolues à recevoir la DEX, là, mais c'est ça, on n'a pas plus de détails à ce niveau-là. Initialement, ils ont inclus seulement les adultes, puis en cours d'études, ils ont décidé de changer ça, puis ils ont même inclus les patients, les enfants, là, donc c'est de tous âges là, à partir de maintenant.
Ouais. En termes d'intervention, la DEX qu'ils donnaient, ce n'est pas les doses auxquelles on donne normalement. Hein. C'est, en fait, nous, on donne souvent de la dexamétasone pour la sphère ORL, en général, aux soins intensifs, ouais. Puis ça ne ressemble pas aux doses, ou ça ressemble plutôt à des doses de sevrage, là, si on veut, des petites doses.
Effectivement, c'était quand même des petites doses, là, donc dexamétasone 6 mg à prendre une fois par jour. À noter, c'était soit par voie pérosse ou intraveineux. Puis les durées de traitement, c'était de 10 jours ou jusqu'au congé. Donc, si le patient avait congé de l'hôpital, mais là, il cessait bien entendu le traitement. Puis il faut mentionner là, que dans le groupe traitement, il recevait aussi le traitement usuel. Mm-hmm. Et le comparateur, c'était simplement le traitement usuel. Par contre, on n'a pas plus de détails non plus à savoir en quoi ça consistait le traitement usuel pour le groupe comparateur.
Puis la randomisation, c'était 1-2, 2 étant le groupe traitement usuel.
Exactement.
Exact. Alors, les outcomes, nos issues primaires et secondaires. Alors, j'aime toujours voir une issue primaire, mortalité à 28 jours, là, qui suivait la randomisation. Puis les outcomes secondaires, c'était quoi, Ariane?
Ouais, les outcomes secondaires, c'était congé de l'hôpital, les durées d'hospite, puis ils ont aussi analysé le composite de la nécessité de ventilation mécanique ou d'un décès chez les patients qui n'étaient pas ventilés là, à la randomisation. Puis ce que j'étais contente de voir, là, c'est comme on disait l'issue primaire, la mortalité à 28 jours, c'est vraiment extraordinaire. Mais ce qui est encore mieux dans le contexte de l'étude pragmatique, c'est que là, l'espèce de biais que les investigateurs sont pas à l'aveugle, tu sais, c'est plus difficile de tricher sur un décès, tu sais, à savoir un patient, est-ce qu'il est décédé ou pas, c'est difficile d'essayer de favoriser le traitement pour ça, à moins qu'on décide de mettre fin là, à des traitements là, pour des soins palliatifs, par exemple. Mais c'est très difficile là, de tricher sur une issue primaire solide comme celle-là.
Bien, ce que je peux voir, si on peut se mettre dans la tête des chercheurs, c'est que s'ils savaient qu'ils n'étaient pas dans le groupe dexamétasone puis que le patient allait vraiment mal, peut-être qu'ils se disaient « Oh, il n'y a pas eu la DEX, il ne va pas bien, bon, on va le laisser aller. » Ça faisait monter la mortalité un peu du groupe contrôle. Je sais pas.
Mais
c'est une possibilité. Là. Écoutez, on est en pleine spéculation parce qu'on est en rapport préliminaire, comme on l'a dit.
Exact.
Alors, dans les résultats, ils ont recruté un nombre assez élevé de 11 320 sujets, dont 9355 qui étaient éligibles à la randomisation. Puis au global, ils ont gardé 6425 sujets, donc 2100 dans le groupe DEX, puis 4300 dans le groupe contrôle. Comme j'ai dit tout à l'heure, un rapport 1-2, DEX versus traitement usuel. Les caractéristiques étaient sensiblement similaires entre les deux groupes. En moyenne, l'âge était de 66 ans. Il y avait une différence d'un an, plus vieux en fait dans le groupe DEX. Et 50% avaient moins de 70 ans, 25% avaient plus de 80 ans. Comme on a vu un petit peu partout sur la planète, il y avait 36% de femmes, donc plus d'hommes atteints de la COVID. Et pour ce qui est des comorbidités, le diabète, la maladie cardiaque et les maladies pulmonaires, c'était exactement pareil aux alentours de 20-25% dans les deux groupes. Tout à l'heure, on l'a dit, en fait, tu l'as expliqué dans les groupes, il y avait un patient les patients devaient être positifs ou fortement suspectés, donc on en avait 82% qui ont été testés à la COVID. Ce que j'ai hâte de voir, c'est qu'à un moment donné, les tests devaient arriver, là, fait que peut-être que c'est un 100% au bout de la ligne, on verra ça dans les données finales. Il y avait, au global, pour faire le 100% de patients, on avait 16% de patients qui ont été ventilés mécaniquement ou qui ont eu besoin d'ECMO. 60 % avaient besoin d'oxygène sans ventilation mécanique invasive et 24 % étaient sans support ventilatoire. Alors, j'aimerais ça, moi, savoir c'est quoi ça, ces 24 %-là de patients hospitalisés sans oxygène. Qu'est-ce qui faisait qu'ils décidaient de les garder sans oxygène et qu'ils recevaient de la DEX, naturellement? Donc, il y a environ 24 % dans les deux groupes qui ont reçu de l'azithromycine, puis un faible pourcentage a reçu les autres traitements, là, comme le lopinavir, le tolicizumab. Le remdesivir est devenu disponible en cours d'étude, mais on n'a pas eu beaucoup d'informations à ce sujet-là, ni pour le plasma convalescent. La durée moyenne, médiane en fait, de traitement de DEX était de 6 jours environ. Alors, ce qui est intéressant dans les résultats, c'est qu'on a une réduction claire du taux de mortalité. Mm-hmm. C'est ça qui est absolument incroyable avec cette étude-là, c'est que c'est rare qu'on a des taux de mortalité qui diminuent de façon aussi significative dans les études aux soins intensifs. Donc, à 28 jours, on avait un taux de mortalité de 21,6% dans le groupe DEX versus 24,6% dans le groupe contrôle, ce qui nous donnait un R de 0,83, donc finalement 17% de réduction. C'est énorme, mais ça, c'est dans l'analyse globale de tous les patients. Si on y va dans les sous-groupes, ce qu'on se rend compte, c'est que c'était encore plus impressionnant, si on veut. Donc, pour nos groupes qui sont, pour, en fait, pour le sous-groupe qui était ventilé mécaniquement, alors là, on avait un risque ratio de 0,65, donc 35%, donc un tiers de moins de mortalité chez le groupe qui a été ventilé mécaniquement en recevant de la DEX. Et pour le groupe qui a eu une oxygénothérapie sans ventilation invasive, là, c'est une réduction de 20%, donc un cinquième de moins de mortalité. Dans le groupe de ventilation mécanique, ça nous prenait un NNT de 8, ce qui est assez significatif et impressionnant aux soins intensifs.
Quasiment trop beau.
Trop beau pour être vrai, effectivement. Et dans le groupe qui avait uniquement de l'oxygène sans ventilation mécanique, c'était un NNT de 25, qui est excellent aussi, parce que si on regarde le nombre de patients hospitalisés qui n'étaient pas aux soins intensifs dans les hôpitaux québécois, ça leur a été extrêmement significatif de faire un NNT, avoir un traitement qui nous donne un NNT de 25.
Dans le fond, pour ceux qui sont moins familiers avec le terme NNT, on aurait besoin de traiter 8 patients ventilés mécaniques avec la dexamétasone pour sauver une seule vie. Donc, c'est impressionnant.
Et 25 pour les patients oxygénés. Alors, comme je le disais, c'est un nombre beaucoup plus élevé de patients sous oxygénothérapie qu'en ventilation mécanique. Donc, par contre, il y a une chose qui est importante à mentionner, c'est que pour le groupe qui était sans oxygénothérapie, eux, on a vu un peu potentiellement un signal délétère d'utiliser la dexamétasone chez eux avec peut-être une augmentation de la mortalité. Est-ce que c'était statistiquement significatif? Dans le rapport préliminaire, ils nous disent que non, mais voyons voir et attendons les résultats finaux là, à ce niveau-là. Je vais te laisser aller maintenant, Ariane, vu qu'on a parlé des trucs du résultat sur la mortalité là, qui était absolument impressionnant. J'aimerais ça que tu me parles un peu plus de pour les outcomes secondaires, qu'est-ce qu'on avait comme résultat?
C'est ça. Pour les outcomes secondaires, ce qu'on a noté qui était intéressant, il y a une différence d'une journée en faveur du groupe de DEX pour la durée d'hospite. Une plus grande probabilité de congé à domicile aussi, toujours encore une fois en faveur de la dexamétasone. Puis l'effet toujours plus marqué là, chez le sous-groupe de patients qui nécessitent la ventilation mécanique, bien entendu. Ils ont aussi noté une réduction de la progression vers la ventilation mécanique chez les patients qui n'étaient pas ventilés là, lors de la randomisation, qui était en faveur, encore une fois, en faveur du groupe dexamétasone avec un risk ratio à 0,76.
On avait des outcomes qui étaient tertiaires, là. Ils n'ont pas encore donné les résultats, mais ça va être intéressant de voir un petit peu, c'est les causes spécifiques de mortalité, l'utilisation de la thérapie de remplacement rénal. On a vu que ça a été un taux élevé de patients qui nécessitaient de la dialyse, de la CBVH ou de la SLED. Donc, je pense qu'on va devoir attendre l'évaluation finale et la publication officielle du papier pour avoir une meilleure compréhension et une meilleure validité de ces chiffres-là. Mais je pense que ça va être extrêmement intéressant d'avoir ça. Alors maintenant, si on critique cette étude-là avec les éléments qu'on a, qu'est-ce que tu peux me dire de positif sur l'étude, Ariane?
Bien, premièrement, grosse étude, 6000 patients sur une seule pathologie, vraiment extraordinaire. Le fait qu'il inclut les enfants et même les femmes enceintes, c'est quand même très rare qu'on voit ça, donc c'est intéressant. Il y avait un bon défi là aussi au niveau du calcul de l'échantillon. Là, en début de pandémie, c'était dur un peu de savoir combien de patients devaient être inclus dans l'étude, Puis ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont créé un espèce de comité à l'aveugle. En cours d'études, ils ont fait un calcul quand on avait un petit peu plus de données épidémiologiques sur le COVID pour savoir combien de patients ça prenait pour détecter une différence absolue de 4 % entre les groupes pour la mortalité. Puis ils ont calculé que ça prenait 2000 sujets dans le groupe traitement et 4000 dans le groupe contrôle. Donc, ils ont atteint l'échantillon avec les données qui ont paru.
Mm-hmm. Tout à l'heure, on parlait que ça a été extrêmement rapide. Je crois qu'entre mars et juin, il y a eu, entre le moment qu'ils ont décidé de faire l'étude et qu'ils ont mis le devis et qu'ils ont donné les résultats le 23 juin, il y a eu 98 jours. Alors ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif et rapide. Et c'est la preuve qu'on peut le faire. Je sais que dans bien des pays, ce genre de possibilité de faire cette étude-là rapidement comme ça serait totalement impossible. Alors, ils ont pris la balle au bon, puis ils ont été extrêmement rapides. Puis je pense que dans le contexte de pandémie, on n'avait pas vraiment le choix d'avoir ce genre d'études-là. Alors, d'un point de vue négatif maintenant, qu'est-ce que tu pourrais me dire par rapport aux éléments négatifs que tu as pu percevoir dans l'étude?
C'est sûr qu'il reste, c'est ça, toutes les données officielles à sortir, là, mais j'aurais aimé ça qu'ils nous parlent du poids des patients, les IMC. On l'a vu, il y a beaucoup de patients à base qui ont développé des outcomes
négatifs.
Les autres traitements concomitants, oui, ils nous ont parlé là, de l'azithro, les autres thérapies antivirales, mais les fameux anticoagulants, là, aussi, on a vu pas mal de publications là-dessus, ça a été intéressant. Puis ça consiste en quoi exactement le traitement usuel, donc le traitement comparateur, là, d'avoir un petit peu plus de détails à ce niveau-là. L'autre chose qui est intéressante, qu'on peut voir seulement dans l'appendice, à savoir chez qui il débutait l'oxygénothérapie. Dans le fond, il l'offrait chez les patients qui avaient une saturation en oxygène inférieure à 92-94%. Je ne sais pas ce que tu en penses là, dans ta pratique.
En général, nous, on est allé aux alentours de 90 %. Des fois, on tolérait du 88, mais c'est surtout quand les patients étaient extrêmement hypoxiques, déjà sous oxygène, qu'on se permettait ça. L'autre chose aussi qu'on se rendait compte ici, ce qu'on faisait, c'est que c'est pas parce que tu saturais à 92 que tu pouvais pas te mériter un peu d'oxygène. Parce que des fois, si tu saturais à 92 puis tu respirais à 35 puis qu'on partait l'oxygène ou un petit flot, souvent les patients ralentissaient leur rythme respiratoire parce que leur hypoxie globale diminuait. Ça les calmait aussi. Peut-être qu'il y avait un effet psychologique à ça. Je sais pas. Mais le 92-94%, c'est peut-être un peu haut. Sauf que on va attendre de voir qu'est-ce qu'ils vont nous dire. Puis pour en revenir un peu sur ce que tu as dit sur les anticoagulants, j'ai hâte de voir si dans le groupe usuel, il y avait l'anticoagulation, parce que s'il était vraiment capable de casser la cascade inflammatoire, si t'es moins inflammatoire, t'es moins pro-thrombotique aussi. Alors, s'il n'y avait pas d'héparine d'une façon, mettons, thérapeutique, là, et que la DEX est venue réduire ça va être vraiment impressionnant à voir. Alors que si tout le monde est sous héparine, parce qu'on sait que dans le groupe DEX, il y avait le traitement usuel, puis dans le groupe non-DEX, c'était le traitement usuel de facto. Alors, est-ce que l'héparine était là de façon prophylactique, thérapeutique? Si vraiment on a une diminution de la mortalité, parce qu'on le sait que les microthrombies ont fait des dommages partout, là. On en a vu, là, cerveau, intestin, foie, partout. Donc, je voulais juste donner un petit point là-dessus. Mais pour revenir à l'oxygène, ce que tu disais, la pratique actuelle, je pense que 92-94, c'est parfait, mais il faut comprendre que des fois, on tolérait du 88, même du 85, surtout pour nos intubés qu'on n'était pas capable.
Puis peut-être c'était juste une suggestion, là. Ça, on n'a pas de détails non plus à qu'est-ce que les cliniciens ont fait réellement dans la pratique, là, mais voilà, c'était quand même important à mentionner. Les autres critiques qu'on a vues beaucoup passer, là, c'est par rapport au taux de décès. Donc, les gens disaient, dans le groupe contrôle et dans le groupe traitement, on a des mortalités autour de 25 %. C'est quand même élevé. Mais je pense que si on regarde les statistiques au Québec, c'est quand même des taux de décès assez similaires, là, quoique ça reste
Dans leur groupe, eux autres, hein, je pense qu'en Angleterre, ils voyaient que leur taux sur les ventilés était jusqu'à 30-35%, là, si je me rappelle bien du chiffre. Là.
C'est
ça. Ça ressemble un peu à ce qu'on a eu. Je sais que nous, on a fait nos taux partiels là, de mortalité, puis on était à 25-28%, mais on était aux trois quarts de notre première vague. Alors, j'ai pas les chiffres finaux, mais sûrement que ces chiffres-là se ressemble un peu partout. Là,
c'est ça. Puis les auteurs se défendent en disant qu'ils ont d'autres études observationnelles, là, puis ça concorde avec des taux de mortalité similaires en Angleterre. Donc, c'est pas mal ça au niveau des points qui étaient un petit peu plus négatifs, là, je dirais.
Bon, finalement, Ariane, qu'est-ce qu'on retient de l'étude Recovery Trial, à part le fait qu'elle semble extrêmement positive?
Ben, on retient en fait que c'est une grosse étude sur une pathologie, quelque chose qui a été rarement fait dans le passé, qu'on n'a pas beaucoup aux soins intensifs, en tout cas.
Jamais.
C'est sûr. Donc, ça, c'est super intéressant. L'histoire aussi du timing, on n'en a pas parlé encore, mais quand on regarde les caractéristiques des patients, on a vu là, qu'il y a plus de bénéfices chez les patients qui sont ventilés, ensuite ceux qui ont besoin d'oxygène, puis il y a peut-être même un effet de néfaste chez les patients qui n'ont pas d'oxygénothérapie. Puis quand on regarde le tableau des caractéristiques, on note aussi la durée en fait, des symptômes. Elle est plus longue chez les patients intubés. Donc, le début des symptômes, ça fait depuis plusieurs jours, autour de 14 jours, si je ne me trompe pas. Versus chez les patients qui n'ont pas besoin d'oxygénothérapie, les débuts des symptômes, c'est depuis environ 6 jours. Donc, on revient à l'espèce d'hypothèse que la place des corticostéroïdes serait probablement plus bénéfique quand on arrive dans la phase de cytokine storm, là, dans la phase vraiment inflammatoire qui est plus tardive dans la maladie. Puis ça fait tout à fait du sens. Puis même peut-être, ça explique pourquoi les corticos pourraient être néfastes chez les patients qui n'ont pas encore, en fait, besoin d'oxygène. Parce qu'on s'entend que ces sous-groupes-là, c'est au moment de la randomisation.
Exact.
Donc, est-ce que ces patients-là ont mal évolué? En fait, parce qu'on est allé inhiber la réponse immunitaire du corps avec nos corticostéroïdes, alors que c'est un virus qui est en pleine réplication à ce moment-là. Donc, je pense que ça, c'est encore là, c'est tout hypothétique, là, ce que je dis là, mais je pense que c'est une voie qu'il faut aller explorer davantage, puis qui est très logique. Là.
Ouais. Puis ça se tient très bien. Puis si on compare aussi avec le MERS puis le SRAS, qui avaient des réplications virales un peu plus tardives, on avait vu que les corticostéroïdes n'avaient pas été très, très, très efficaces. Là. Peut-être qu'ils avaient été donnés à l'époque, à la période de la réplication virale, qui se faisait plus dans la deuxième semaine, en tout cas. Mais effectivement, on l'a vu au niveau de nos patients que la tempête inflammatoire se faisait dans les 10 jours, parce que dans la deuxième partie de la maladie. Là. Alors oui, effectivement, je pense que le timing fait foi de tout là, à ce niveau-là.
Puis l'autre affaire qu'on n'a pas parlé encore, c'est les doses. Bien, on en a parlé un petit peu, c'est des doses plutôt faibles là, de corticostéroïdes. Nous, dans la pratique, je pense qu'on en donnait peut-être un peu plus, un peu plus longtemps aussi. Est-ce qu'il faut... c'est sûr qu'avec les données qui sont parues, j'aurais tendance à vouloir appliquer leur protocole si on veut répliquer leurs résultats.
Absolument, absolument.
Mais après, est-ce que c'est absolument cette dose-là qui a le meilleur effet? Si on ne le sait pas encore. Il faudrait voir d'autres bras, en fait, avec d'autres doses de traitement, d'autres durées de traitement. Mais juste pour donner une idée, parce qu'ici, je ne sais pas, au Québec, peut-être qu'on l'utilise un peu moins, la DEX, là, dans le contexte de pneumonie, tout ça. 6 mg là, de DEX par jour, ça équivaut à solumédrol 32 mg par jour. Donc, un 10 mg IV aux 8 heures, par exemple. Donc, on s'entend que c'est...
C'est des doses de sevrage de solumédrol. Ouais, c'est ça. C'est pas des très grosses doses.
On commence avec ça. En prednisone, l'équivalent, c'est 40 mg une fois par jour. Puis l'autre chose qu'il faut noter, ils font pas de sevrage. C'est 10 jours de traitement. La médiane, c'était 6 jours. Donc pourquoi 6 jours? Est-ce que les patients ont eu congé de l'hôpital ou est-ce que le clinicien a décidé de l'arrêter ou sont décédés? Mais tu sais, ils ne parlaient pas de faire de taper là, ou de sevrage en tant que tel. Mais
corrige-moi si je me trompe, je pense que la DEX se sèvre, s'auto-sèvre, si on veut, dû à sa longue demi-vie. Hein?
Exactement. Donc c'est peut-être un avantage là, de cette molécule-là.
L'autre chose. Les glucocorticoïdes purs aussi. Hein?
Oui,
donc ça donne,
ça, c'est super
ça donne
important.
Un point parce que sinon, on a moins de rétention hydrosodée puis moins de surcharge associée que si, par exemple, on va donner du Medrol ou encore pire, du Cortef.
Oui, exact. Donc, ça, c'est vrai que surtout dans le contexte du COVID avec les histoires de ARDS, là, vraiment essayer d'éviter l'effet le minéralocorticoïde qu'on peut avoir avec les autres corticos. Puis c'est ça, l'autre chose aussi qu'ils n'ont pas parlé, tu sais, est-ce qu'ils faisaient des marqueurs là, inflammatoires, est-ce qu'ils prélevaient des CRP ou d'autres marqueurs comme ça? Eux, ils n'ont pas l'air de l'avoir fait. Nous, en pratique, on le faisait, puis des fois, ça nous aidait à gauger est-ce qu'on continue les cortico ou pas, mais peut-être que ce n'est pas une bonne pratique. Tu sais, peut-être qu'il ne faut pas se fier à la CRP puis vraiment y aller avec des faibles doses de cortico. Donc, c'est ça qui, tu sais, il y a encore plein de choses qu'on pourrait aller fouiller ou aller étudier, mais je pense que vraiment, là, ça change la pratique. En tout cas, moi, j'aurais tendance à vraiment appliquer leur façon de faire pour répliquer leurs résultats. Et peut-être que si on en donne trop longtemps ou des trop grosses doses, au contraire, ça peut être peut-être nocif pour les patients. Là. Donc,
Absolument. Puis Il faut être bien honnête, là, la CRP, je m'en servais, on s'en servait beaucoup, puis on se disait, ouf, elle, ça réaugmente, ça baisse pas, on va continuer la cortisone. Des fois, j'y allais juste avec l'amélioration clinique du patient, puis là, je baissais ma cortisone pour faire un sevrage normal ou usuel. Puis souvent, je me rendais compte, je pense que je l'avais déjà dit, comme j'ai dit, ce que je dis là, c'est totalement une observation de ma part, mais je voyais que quand on descendait en bas de 200 de CRP, je voyais une diminution des besoins d'oxygène, une amélioration de la fonction rénale, on aurait dit que c'était un genre de cut-off psychologique à ce niveau-là. La chose qui me vient à l'esprit par rapport à la cortisone, c'est qu'on dirait, en fait, à la dexamétasone plutôt, je devrais dire, c'est que à la suite de cette étude-là, ben, je pense qu'on n'a pas le choix là, de commencer à en donner, puis il faut s'adapter vite en COVID. Là, bon, notre première vague, nous, au Québec, elle est faible, il y a d'autres pays qui n'est pas faible. On va voir si les autres pays qui sont dans le pic, là, les États-Unis sont, on le répète, on est le 28 juin aujourd'hui, donc les États-Unis, le sud des États-Unis est en train de se faire massacrer par le COVID, l'Amérique du Sud se fait, est-ce qu'ils vont débuter la dexamétasone à la suite de ça? Est-ce qu'on va voir une amélioration? Nous, on n'a plus assez de cas pour être capable de se dire de le faire, on va le faire, là. Mais je veux dire, il faut être capable de se revirer rapidement. C'est ce qui fait la beauté de la médecine en temps de pandémie et l'efficacité et la possibilité de se revirer rapidement, comme je viens de le dire. Alors, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Puis nous, ben, naturellement, on va attendre notre deuxième vague là, pour pouvoir l'utiliser à large échelle. Mais comme on va l'utiliser beaucoup, ça pose des problèmes, là. Puis toi, ben, en tant que pharmacienne, je pense que tu as un ou deux messages à donner à tes collègues pharmaciens pour éviter le gaspillage, mais éviter ce qu'on a vécu avec tous les médicaments de soins intensifs, un effet de backorder. Alors, qu'est-ce que tu me suggères là-dessus?
On ne peut pas faire grand-chose à ce niveau-là. C'est sûr que ça va probablement venir à manquer, là, mais des petites mesures qu'on peut penser tout de suite là, pour la dexamétasone, c'est des fioles de 20 mg par 5 ml. Donc, c'est sûr que si, dépendamment dans votre centre, là, si vous avez ça dans les acudoses, puis souvent, pour les standards de bonne pratique, on va dire aux infirmières de jeter tout ce qui reste dans la fiole après l'utilisation pour éviter que ça traîne sur les comptoirs, puis ça, etc. Donc, pour ça, il faut, en tout cas, moi, je vous recommande peut-être de faire du batching ou de seringue là, déjà préparée de 6 mg si vous avez beaucoup de COVID ou, tu sais, de prévoir déjà, puis de pouvoir les faire sous une hotte stérile, pour pouvoir que les durées de traitement soient plus longues là, que vous pouvez garder dans votre réfrigérateur, par exemple, puis éviter là, de jeter la moitié de la fiole à chaque fois qu'on a un traitement à débuter. Donc, ça, c'est vraiment une des premières choses que je ferais. Puis, malheureusement, ben, je pense que ça va peut-être venir à manquer, puis on va se tourner vers le Solumédrol, puis ça va être un peu la même histoire. Là, donc, de faire des seringues préparées là, de ces médicaments-là, c'est une bonne idée, à mon avis.
Donc, en tant que clinicien, ce que je dirais, c'est que je pense que la première dose, il ne faut pas la retarder. À partir du moment que vous décidez que vous voulez donner une première dose, donnez-la, parce qu'on le sait que préparer de la médication sous la hotte, c'était un petit peu plus long. Surtout si vos pharmaciens sont surutilisés pour le reste de l'hôpital. Donc, donnez votre première dose, qui est à gaspiller un peu. Mm-hmm. Mais après ça, on le sait qu'on a un traitement qui va se faire entre 2 et 10 jours, hein, vu que vous allez avoir donné la première dose par vous-même. Puis des fois, la première dose se fait en pleine nuit. Donc, naturellement, les pharmaciens ne sont pas toujours là, tout dépendant de vos centres. Mais après ça, pour toutes les doses subséquentes, les faire préparer pour économiser. Puis, comme Ariane l'a dit tout à l'heure, aller vers des équivalences de méthylprénisone ou de prénisone pour avoir au moins l'équivalent d'effet glucocorticoïde à ce niveau.
Puis la DEX a une bonne biodisponibilité. Donc, si votre patient absorbe bien, on peut aller vers la voie perreuse qui va peut-être être moins... en demande que la voie intraveineuse. Là, on ne sait pas trop, c'est
non,
à voir.
On ne sait pas. Mais on avait des patients, par contre, malheureusement, qui étaient souvent hypervolémiques, donc les absorptions intestinales n'étaient pas toujours très bonnes. Des patients ventilés sur le ventre aussi, où est-ce que quand on mettait, il y avait des fois un petit peu plus de vomissement. Ouais. Donc, peut-être que la voie IV en début de maladie serait préconisée, mais ça sera votre propre décision. Alors, je pense qu'on a fait le tour, Ariane. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses que tu voulais rajouter. Moi, j'ai hâte de voir la révision des pairs de cette étude-là. J'espère qu'on aura besoin de refaire un podcast pour défaire tout ce qu'on vient de faire là. En fait, je pense que globalement, il y a quelque chose d'extraordinaire à cette étude-là, mais je reste prudent parce que ça semble être un petit peu trop beau pour être vrai. Sauf que si ça l'est, ben, tant mieux, on va être capable de limiter les dégâts de cette maladie-là qui est un petit peu spéciale.
Effectivement.
Alors, merci Ariane.
Et on se revoit.
Faites attention à vous. Préparez-vous pour la deuxième vague. Bye bye.
Ciao.
L'info. l'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.